attitude destructrice. Qu'il cible et pointe, c'est le favoritisme. Alors, ça semble un peu étonnant, pour nous peut-être. Mais on va y venir, peut-être que vous le trouverez moins étonnant tout à l'heure. Le favoritisme, ce comportement, aussi divers soit-il, est selon les propos de Jacques incompatible avec la foi. Comme souvent d'ailleurs, Jacques ne passe pas par quatre chemins pour signifier son propos et exhorter que ce soit ses frères autrefois ou nous aujourd'hui à une grande vigilance quant à nos attitudes contraires à la foi qui doit nous animer. Aussi, prenons le temps de comprendre le sens profond de son exhortation pour nous aujourd'hui. Et j'en viens à regarder un petit peu de ce que c'est a priori que le favoritisme. Et après on va creuser. Le favoritisme, je crois, je le pense, nous en avons tous fait quelque part l'expérience. Et à cause de cela, nous en faisons une assez bonne idée. Pour la plupart, si ce n'est tous peut-être, un jour ou l'autre, nous avons été certainement victimes, entre guillemets, notamment dans nos jeunes âges, de ce favoritisme. Je prends un exemple. Peut-être pour certains ça ne fonctionnera pas, pour d'autres, oui. Prenez l'exemple du moment où, quand vous étiez à l'école et qu'il y avait cours de sport, il y avait parfois des temps de jeu en équipe. Et à ce moment-là, il fallait constituer deux équipes, très certainement, ou plusieurs même. Et il y avait très souvent désigné les meilleurs, les grands sportifs, ceux qui avaient une bonne idée de la chose. Et puis il y avait les autres qui allaient être répartis. Et dans ce moment-là, rares sont ceux qui, parmi nous, furent choisis en premier pour entrer dans l'une ou l'autre des équipes qui allaient s'affronter peu après. Car honnêtement, nous n'avons pas tous eu un jour, et peut-être encore aujourd'hui, le privilège d'être des athlètes nés. Alors je crois qu'Alex n'est pas avec nous, tant pis, je l'aurais bien désigné, lui il fait peut-être partie de l'exception. Mais nous, non. Si nous avions le malheur d'être très moyens, voire maladroits avec notre corps, nous risquions alors de connaître une forme d'humiliation, d'être choisi parmi les derniers de la classe. Voire même d'être le dernier, pourquoi pas, et de se dire « c'est vraiment moi le boulet, en gros ». Si ce jour-là, il s'agissait de faire, alors, chose pire, du rugby ou un sport un peu plus viril, être une fille vous faisait comprendre sans détour qu'être un gars, c'était quand même tellement mieux. Et là, dans ces moments-là, des favoritismes étaient exercés de partout et amenés à des formes, pas tout à fait inconscientes quand même, mais d'humiliation entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, parfois, ça rigolait un petit peu. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je crois en voir quelques-uns qui ont souri. Peut-être vous l'avez expérimenté aussi. En bref, le favoritisme, nous en avons certainement expérimenté l'effet sur nous. Et parfois, si ce n'est là aussi certainement, nous en avons même été à un moment ou à un autre capables, nous aussi, de l'autre côté, de ce genre de discrimination autour de nous. Nous l'avons peut-être aussi généré, créé, sans le savoir. Et peut-être même encore aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis à même parfois, sans m'en rendre compte, de créer cela. Et peut-être aussi, malheureusement, dans notre vie chrétienne. Sait-on jamais. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, que Jacques, en son temps, s'adresse avec des mots assez percutants à ses frères et sœurs. Alors aussi, revenons maintenant à Jacques pour percer davantage le sens de son exhortation. Et pourquoi il place une telle importance à nous interpeller sur ce sujet. Jacques, dans son exemple, se situe sur le terrain de l'accueil fraternel. Notez d'ailleurs, avant cela, que notre manière d'accueillir toute personne poussant la porte d'une communauté, d'une église comme la nôtre, n'est pas le seul domaine dans nos vies où nous pourrions manquer de sagesse à propos de cela, et tomber dans ce danger. Il y a encore tant d'autres domaines. Mais l'accueil fraternel est un domaine qui est très parlant, qui est un bon révélateur de ce que nos possibles favoritismes révèlent. Et que révèlent d'ailleurs nos favoritismes? Alors je vous donne en un mot, et après je viens à leur expliquer. Quand nous faisons preuve de favoritisme, ce que nous révélons, par là même, ce sont nos idolâtries. Alors peut-être le lien vous semble très étonnant, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi on peut dire cela. Restons, si vous voulez bien, dans cet aspect du favoritisme que Jacques prend lui-même en exemple. favoriser les riches ou les richesses apparentes d'une personne et en oublier ou de mépriser, de négliger ceux qui viennent d'une manière plus modeste ou voire qui montrent, parce qu'ils n'en ont pas le choix, qu'ils sont pauvres. Le constat de base, et je préfère remonter un tout petit peu plus haut, sur ce domaine-là, sur cet accent-là, sur ce regard-là, le constat de base sur ce sujet est assez évident à première vue. La pauvreté, surtout matérielle, mais pas que, est une épreuve. Pour ceux peut-être qui parmi nous l'ont expérimenté un jour, et tout à l'heure dans un témoignage, il y a eu quelque chose qui touchait à cela, d'avoir vécu dans un hôtel délabré, etc. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais de l'entendre tout à l'heure, et puis Wisberg me l'avait partagé peu avant, me fait dire que voilà, parmi nous, il y a certainement des gens qui ont connu cela d'une manière criante. Mais ne pas avoir de travail, ne pas pouvoir payer ses factures parfois facilement, ne pas pouvoir acheter certaines choses nécessaires est déjà une épreuve en soi, car cela est difficile à vivre. C'est pourquoi la pauvreté est souvent, si ce n'est presque à chaque fois, considérée comme peu désirable. Et on passerait même pour fou de dire le contraire. Heureux soit le pauvre. Pourtant, parfois, quelque part, dans la Bible, on entend des accents comme ça. Mais ça paraît fou. Et pourtant, bibliquement, on peut dire qu'il y a, et je me permets de le dire, qu'il y a des bénédictions spirituelles qui sont liées au fait d'être pauvre, même pauvre matériellement. Or, dit comme cela, vous pourriez être surpris. Mais quand nous comprenons que cette pauvreté nous permet d'accéder plus facilement à la bénédiction de nous savoir dépendants de Dieu, absolument besoin d'être dans la dépendance de Dieu, dans tous les aspects de notre vie et pas seulement matériel, alors oui, il est possible de dire, en se basant sur la sagesse de Dieu et sa Bible, qu'il y a des bénédictions spirituelles qui sont liées au fait d'être pauvre. N'est-ce pas d'ailleurs là le sens même d'une de ces phrases que Jésus a dites autrefois et qui d'ailleurs aujourd'hui est devenue proverbiale, a dépassé l'étendue de l'Église ? Quand il dit ceci, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume, Jésus pointe vers cette réalité. Pour le riche, il le prend à l'envers, mais c'est la même chose. Il lui est plus difficile d'accepter la présence, la nécessité d'être dépendant de Dieu, car il croit qu'à cause de tout ce qu'il a, rien, en dehors de cela, ne lui apportera quoi que ce soit de mieux, autrement dit Dieu. Alors oui, même si ça paraît bizarre, et Jacques le rappelle, il y a des bénédictions spirituelles qui sont liées au fait d'être pauvre. Mais continuons, et ne nous arrêtons pas sur ce constat de base. La pauvreté est un état qui peut nous rendre donc plus proches de Dieu et de son royaume, plus proches de Jésus, et bien orientés. Elle peut construire la foi, nous faire grandir dans la relation à Dieu. Et il y a là quelque chose de vraiment magnifique, même si ça reste une épreuve. Les personnes dont la foi, d'ailleurs, personnellement, m'a émerveillé le plus souvent, pas seulement, mais le plus souvent, sont souvent des personnes très modestes et qui m'ont fait une démonstration, des démonstrations d'une foi magnifique, très grande. Parce que justement, je pense qu'ils ont parfois mieux grandi que beaucoup d'entre nous en raison de cette pauvreté qui était un don de Dieu pour elles. Malheureusement, cet état, la pauvreté, a tendance aussi, et peut-être trop souvent quand nous la vivons, à nous freiner dans notre cheminement de foi, à nous tirer vers le bas. Et en fin de compte, la pauvreté peut être une véritable épreuve spirituelle. Pourquoi il est possible d'en parler ainsi ? Dans la pauvreté, on peut facilement désespérer et voir notre foi en Dieu se noyer dans un océan d'inquiétudes, de circonstances difficiles. Parfois même, on se croit matériellement pauvre, ou on se persuade de l'être parce qu'on se laisse trop façonner par les sirènes de ce monde. Des sirènes qui désirent nous égarer, comme par exemple de se sentir en bas de l'échelle sociale, car on ne peut arriver à changer de portable quand le nouveau modèle vient de sortir et de se dire « mais vois comme je suis pauvre, je n'arrive pas encore à en changer ». Il est normal de pouvoir le faire. Ne pas le faire, c'est que, voilà, je n'ai pas encore suffisamment de richesse pour vivre ce qui normalement doit se vivre. J'exagère un peu, mais parfois, et je l'ai entendu avec des frères ou des sœurs, on se dit pauvre, matériellement, alors que c'est pas vrai. Ça n'est pas si vrai. Mais continuons encore un peu. Dans ces situations, au lieu de nous rapprocher de Dieu, une tendance bien naturelle est de se tourner vers une idole. Et cette idole, elle est évidente. Elle revêt d'ailleurs différents noms dans la Bible, mais on peut l'appeler tout simplement l'argent. De penser que c'est de l'argent que viendra la solution à nos problèmes. Et c'est une idole très répandue. On oublie dès lors que Dieu nous aime, qu'il peut pourvoir et que très souvent il a même déjà pourvu à ce qui m'est nécessaire aujourd'hui. On en oublie qu'on peut lui faire confiance et on commence à envier ce que d'autres ont. Qu'il est facile aussi de tomber dans cela, et moi-même peut-être parfois, je me laisse un peu happer par cela. Mais alors pourquoi ? Parce que l'on croit viscéralement que c'est de l'argent que viendra, entre guillemets, notre salut immédiat. Pour telle et telle situation, hein. On ne parle pas du grand salut qui nous fera vivre dans la présence de Dieu, mais on parle d'un salut d'aujourd'hui, de demain. Parce que l'argent reste encore une idole pour beaucoup d'entre nous, certainement. Et si Jacques parle sans concession de cette attitude, c'est qu'hier, comme aujourd'hui, toute personne pauvre peut, elle aussi, tomber dans cette idolâtrie. Et Jacques, d'ailleurs, ici, interpelle des gens plutôt modestes, voire pauvres, qui s'en prennent à d'autres qui, eux aussi, sont pauvres, en les méprisant. C'est étonnant, mais c'est très souvent ce qui peut se passer. Et c'est pourquoi Jacques montre combien, à force de considérer l'argent, dans cet exemple-là, il y en aura d'autres, hein, comme la solution ou comme la mesure d'une personne, on peut alors tomber dans ce que lui appelle le favoritisme, y compris dans l'Église. Et le problème, véritablement, c'est pas de bien accueillir le riche, il a le droit d'être bien accueilli, mais c'est d'être bien accueilli parce qu'il est riche, et pire encore, c'est de mal accueillir l'autre. C'est là où réside vraiment le problème. Le problème, c'est bien la réaction de ces personnes, pauvres ou modestes, mais pas forcément qu'elles, prêtes à tout. Et en l'occurrence, alors permettez-moi l'expression, elle n'est pas très jolie, mais elle dit bien la chose, de faire le lèche-botte. Et encore, il y a pire comme expression, on pourrait dire la même chose, mais on n'est pas celle-là. Oui, d'être prêt à tout pour s'en sortir, pour trouver de l'aide dans leurs conditions, qu'ils considèrent parfois trop humbles. Alors cela, on ne le fait pas qu'à l'église, on peut le faire au boulot. On peut le faire aussi avec ses voisins, ou pas, avec sa famille, mais notamment de se tourner vers l'oncle machin qui, lui, a X maisons, et quand on cherche une solution pour aller en vacances, on va toujours vers lui, on oublie qu'il y a aussi de la famille à côté. J'exagère, ça peut être plein de choses. Mais surtout, en tant que communauté, nous pourrions aussi être tentés d'accueillir plus honorablement toute personne, alors je vais prendre là des exemples, ne vous sentez surtout pas visé, hein. Arrivant dans un gros SUV d'une marque prestigieuse, type allemande, premium, là, vous savez ces grands noms là, que celle qui va arriver peut-être plus modestement en bus, avec des vêtements qui ben voilà, sont les mêmes que dimanche d'avant, et le dimanche d'avant, et le dimanche d'avant. On pourrait être tenté de bien faire, de s'assurer de son bien-être à cette personne qui arrive avec une belle voiture bien rutilante. Car après tout, on va se dire, ah, si lui, il reste, ah, pour les offrandes, on va avoir un petit gain, c'est certain, ça va arriver. J'exagère, mais je me permets encore un petit peu. Et puis, les projets fous qu'on avait dans l'église, Dieu y a répondu, c'est lui, c'est certain qui va nous amener cela. Quand savez-vous ? Quand savez-vous ? Voyez comme parfois, là je caricature, bien évidemment, et je vous ai fait rire, mais cela démontre à quel point nous avons encore peut-être certaines petites idoles dans notre vie. Parce que nous prenons la mesure des personnes à cause de ces idoles-là. Là où Dieu nous demande de regarder à chacun à la mesure de ce que lui a fait pour nous. Et c'est là où nous nous trompons parfois encore. Aussi, au lieu de nous satisfaire de ce que nous avons, et je reste dans l'exemple de Jacques, au lieu de nous réjouir des bienfaits de Dieu, nous pouvons être tentés d'honorer, par exemple, le riche et de délaisser le plus modeste. L'argent, comme je l'ai dit, peut être la mesure avec laquelle nous nous traitons les uns les autres. Tout comme notre propre existence, d'ailleurs. Et parfois, nous pouvons même aller jusqu'à maudire notre situation et maudire Dieu à cause de cela aussi, de cette idole. Et ce faisant, nous sommes alors capables de faire du mal, de mépriser, même inconsciemment et trop souvent inconsciemment. Et comme au temps de Jacques, nous sommes toujours capables, malheureusement, de faire du favoritisme en raison de nos idoles enfouies. Et il n'y a pas que l'argent. Je vais essayer d'en esquisser quelques-unes, mais moins longuement. De ces idoles enfouies, de celles qui nous font miroiter des promesses ou des assurances pour nous aujourd'hui, ou même pour notre communauté, ça ne sera pas forcément très intéressé. Quand j'accueille bien l'autre, c'est pour le bien de mon Église que je le fais, parce qu'après, ça sera mieux. Oui, à cause de ces idoles, à cause de ces dernières, nous sommes alors capables de ne plus traiter les uns et les autres comme Dieu les traite et comme Dieu les voit. Et tout le problème est là. L'on pourrait se dire que nous ne sommes pas de ceux-là, surtout vis-à-vis de l'argent, car quand même de l'argent, on s'en méfie. Il est un peu trop tape à l'œil parfois, donc on sait le voir arriver, et on sait quelque part ne pas tomber trop dans le danger. Bon, c'est pas toujours vrai. Mais nos idoles qui nous poussent à ne plus traiter les autres comme Dieu le fait, peuvent être de nature très variée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et venons à en prendre quelques autres. Une autre idole pourrait être celle, par exemple, de nos facultés intellectuelles. Par elle, nous pensons pouvoir résoudre tout ou presque. Avouons-le. Si j'ai la chance d'être brillant, intelligent, etc., etc., je peux faire plus. Et d'ailleurs, très souvent, c'est ce qu'on nous enseigne à travers nos parents. Il y a une volonté d'encourager, mais parfois, elle est tellement amplifiée qu'elle devient presque idole. Être bon, intelligent, c'est super. Et être pas très malin, ben, t'es foutu, quoi. Or, de trop regarder à ces facultés qui sont des dons de Dieu peut aussi être une idole pour nous, dans nos relations, dans l'accueil du prochain. Nous serions à même de faire là encore le lèche-botte, non plus devant la personne qui vient en gros véhicule, tape à l'œil, là, tout ce qu'on veut, mais de faire le lèche-botte devant des personnes ayant fait de bonnes études, ayant une bonne réputation, un bon métier, quelque chose qui donne envie et que très souvent on cite en exemple en disant « Ah bah si tu fais de bonnes études, tu feras ça, mon fils ou ma fille. » Et alors nous venons en oublier qu'on est capable là encore de délaisser tel frère ou telle sœur juste parce qu'il n'a pas eu la chance ou n'a pas eu le don ou la possibilité de faire telle et telle étude, de pouvoir être au bénéfice de telle et telle profession, pardon. Ou même, pire encore, parfois de boycotter, mais d'en oublier d'aller vers ceux qui parfois, parmi nous, s'expriment moins bien, s'expriment mal. Parfois peut-être même parlent mal le français, qui est ma langue à moi. En allant me donner la bonne excuse qu'il est difficile de toute façon de comprendre, parce que quand je l'écoute, je comprends rien. Alors bon, je le laisse, je vais aller plutôt voir ceux qui sont comme moi, parlent bien, et puis quand on parle, c'est super enrichissant, c'est stimulant. On en est capable. Et croyez-moi, je ne vais taper sur personne en particulier, mais dans mon parcours d'études théologiques, une chose qui m'a surpris, pas de tous, hein, mais de quelques-uns de mes professeurs de théologie, ça pouvait être cela. Ils ont de grandes qualités. Ils aimaient vraiment nous suivre, mais très souvent, ils aimaient à passer plus de temps avec quelques rares de leurs étudiants. Juste parce que voilà, il y avait un côté flatteur pour aller d'avoir les plus brillants, parce qu'ils restaient dans leur petit monde à eux. Bon, ils avaient aussi ce défaut-là. Nous ne sommes que rarement épargnés par cela, il faut l'avouer. Alors, c'est pas pour autant qu'on se sentait méprisé, mais quand même, il y avait quelque chose qui touchait à cela. Et peut-être cela pouvait amener quelques douleurs chez certains. Mais globalement, peu importe notre idole, qui va nous pousser à aller vers les uns et à en négliger d'autres, la seule chose qui se vit là, au bout du compte, c'est un mépris d'une personne qui, elle aussi, est profondément, aimée de Dieu pour ce qu'elle est et pour les dons qu'elle a reçus, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle soit brillante ou moins brillante, ou que sais-je encore. Un autre exemple, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, et voyez à quel point peut-être on a aussi du travail dans notre communauté, d'une certaine manière, on est capable là aussi de mépriser encore un prochain, un autre, en raison de quelque chose de banal, sa jeunesse. Faites attention à la manière parfois dont nous parlons des jeunes. Et peut-être à l'inverse aussi, c'est les plus anciens. Ça marche dans les deux sens. On va dire qu'il n'y a que ceux du milieu qui, quoique très souvent ils sont cités comme déjà trop vieux, mais qui se sont très presque épargnés. Mais regardez la manière dont nous parlons des autres. Je vise les jeunes, ils ne sont pas là, ou presque. Mais regardez parfois nos paroles qui soi-disant, cherchent à être bienveillantes, peuvent être perçues comme méprisantes pour un jeune. Parce qu'on les considère comme des demi-portions spirituellement et autres. Regardez comme Timothée, un certain Timothée, il y en a plusieurs, mais je parle de celui qui est dans la Bible et connu de la Bible. Compagnon de l'apôtre Paul, qui a eu un long ministère lui aussi, et j'en suis sûr fructueux, a eu certainement, à un moment donné, connu aussi une forme de mépris en raison de son jeune âge, dans son ministère. C'est pour ça que Paul d'ailleurs l'encourage en lui disant « N'écoute pas trop cela ». Il ne le dit pas tout à fait directement comme ça, mais on le comprend bien. Voyez comme nous sommes capables parfois d'être, sans s'en rendre compte, méprisants. Parce qu'on imite ce monde, tout simplement. Alors, je ne vais pas continuer de lister les différentes idoles qui nous poussent à placer parfois en haute estime certains et à mépriser d'autres, même inconsciemment, au sein même d'une communauté chrétienne. Et je ne parle pas autour de nous, dans notre travail, auprès de nos collègues. Là aussi, il faut être prudent. Il y en a tant que ce serait difficile d'en faire la liste et puis on serait là encore longtemps après. Toutefois, je me permets de prendre un dernier exemple. Un dernier. Nos origines régionales. Quand je suis arrivé, je crois que je vous en ai fait un peu trop part. Pardonnez-moi encore. Mais bon, il y a des gens comme ça, ils sont tellement fiers, c'est bête, hein. Ça ne sert à rien en fait. Mais aussi nos nationalités et tout simplement nos origines culturelles. Sans nous en rendre compte, peuvent aussi nuire à la relation que nous devons porter les uns aux autres. Et ce n'est pas consciemment, ce n'est pas par malveillance, on n'a pas envie de mal faire. Mais sans nous en rendre compte, nous sommes capables là aussi, à cause de cela, par nos propres petits réflexes maladroits, de favoritisme, qui va altérer d'ailleurs la fraternité chrétienne, le témoignage de l'amour de Dieu que nous devons avoir les uns pour les autres. Je l'illustre par une simple question. D'ailleurs, je crois qu'elle a dû être partagée, j'en suis quasi sûr, dans chacun des groupes de maison qui s'est réuni, puisqu'elle avait été proposée un petit peu dans la trame. Donc je pense qu'elle a été reprise. Une simple question, que je vais d'ailleurs décliner avec quelques facettes. Tout à l'heure, il va y avoir la fin du culte. On a pour beaucoup, pour ceux qui ne sont pas trop pressés, ou ceux qui ne sont pas les plus timides parmi nous, l'habitude de rester encore un peu, et d'aller parler, d'échanger, de prendre des nouvelles, etc., etc. Je vous pose la question. Qui allez-vous aller saluer à la fin du culte? Vous me voyez venir, hein? Alors je la repose encore autrement, si vous ne voyez pas vers où je vais. Vers qui allez-vous prendre des nouvelles quand le chant d'envoi marque la fin du culte? Est-ce que ce sont les mêmes personnes, très souvent dimanche après dimanche, que l'on aime bien aller voir? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. Mais c'est ce que cela n'amène pas aussi à côté. Est-ce que cette habitude, ce, entre guillemets, petit favoritisme de trois fois rien inconscient, nous amène très souvent à oublier d'aller vers d'autres aussi? M'est-il semblable... qu'est-ce que j'ai mis là? Non, c'est pas une phrase, ça. N'importe quoi. Il faudrait parfois... J'ai pris le temps de me relire, mais parfois, même en me relisant, il y a des trucs... Je sais pas d'où ça vient. Il manque un bout. Mais... Quand je vais voir ces personnes-là, quand j'aime aller voir ceux qui me sont semblables, parce que c'est très souvent ce que nous faisons à la fin du culte. Je vais voir ceux avec qui déjà je passe beaucoup de temps, avec qui j'ai l'occasion de partager, avec qui je passe du temps au téléphone, avec qui je prie, etc. Et bizarrement, tous les autres avec qui je ne passe pas beaucoup de temps, je ne vais même pas les voir là le dimanche alors que tout le monde est là. Alors, je grossis le trait, je caricature, mais c'est assez vrai. Alors oui, peut-être... Nous tombons quelque part dans cet oubli de l'autre, de celui que Dieu m'a donné, mais que j'oublie, que peut-être même sans m'en rendre compte, je méprise par mon attitude inconsciente, car elle est très souvent là. Quand elle est consciente, bon, général, on s'en rend tous un peu compte, et nous le premier. Car, il faut l'avouer, nos attitudes dans ce domaine-là se font malheureusement parfois, bien trop souvent, habitude. Et nous amènent à oublier l'autre, à l'apercevoir et se dire « Ah oui, je crois que je l'ai déjà vu ». Mais après, quand on se dit « Mais c'est qui, au fait ?» On ne sait pas. Et de cela, au bout du compte, à mépriser ces personnes. Alors, c'est pas que je les considère toujours comme plus petits que moi, plus fragiles, mais très souvent parce que, voilà, mes idoles, qui sont encore un peu là, et dont je n'ai pas complètement réussi à me débarrasser, et il va me falloir l'aide de Dieu pour cela, me font tourner vers ceux qui, quelque part, à la mesure de mes idoles, me font dire « ce sont des personnes vers qui j'ai plaisir à aller prendre du temps, que j'ai envie d'aller voir ». Et puis les autres, bon, bah, si peut-être j'en ai un peu plus. Mais bon, parfois elles sont déjà parties, donc j'ai la bonne excuse, ils ne sont plus là. Mais la prochaine fois, je vais réitérer, je vais retourner vers les mêmes. Et à nouveau, ceux que je n'aurais pas eu le temps de voir, bah, seront déjà partis. Bref. Par là même, et sans trop nous en rendre compte, nos attitudes peuvent avoir des conséquences spirituelles sur d'autres. Et c'est là où peut-être il est question de personnes plus fragiles, au moins spirituellement. Car notre témoignage alors s'avère être erroné. Et c'est pour ça que Jacques y va quand même assez franchement. Parce que rappelez-vous, la première phrase, suivant les traductions, « Gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur. » C'est une forme de baffe, hein, quand même, qu'il envoie là à ses frères et sœurs. Pour nous aussi, presque. Notre témoignage ne témoigne plus de l'amour du Christ pour chacun de nous quand nous rentrons dans ces logiques-là, sans nous en rendre compte. Et à cause de cela, peut-être même d'une manière extrême, quand cela peut arriver, nous pouvons même, à cause de cela, nous pousser des personnes à s'éloigner de la foi. À cause d'une indifférence, d'un oubli, qui sera perçu comme un mépris. Certainement. Parce que nous disons, nous le chantons, nous nous aimons les uns les autres, Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, unis dans l'amour, tout ce qu'on veut. On l'a presque chanté tout à l'heure. D'ailleurs, ce n'était pas totalement innocent que je l'ai placé là. Mais qu'en est-il vraiment dans nos actes, dans nos petits gestes même? Voilà pourquoi Jacques s'attaque à cela dans sa propre communauté. Voilà pourquoi son propos reste présent. Qu'il se trouve être là dans notre Bible et qu'il demeure pertinent pour nous aujourd'hui. Aussi, rappelons-nous ceci. Dieu est venu nous chercher dans notre misère spirituelle, à tous. Nous étions, et nous le sommes peut-être encore, des miséreux spirituellement. Ce n'est pas une très belle expression, mais elle veut ce qu'elle veut dire. Et Jésus est venu pour moi. Il est venu pour moi comme pour celui que je tends parfois, sans m'en rendre compte, à oublier, à ignorer, et peut-être même à mépriser. Il est venu pour moi comme pour lui, afin de déverser son amour avec abondance, sur lui comme pour moi. Et pour ne pas tomber dans ce possible danger, souvenons-nous, méditons, louons Dieu pour toutes les bénédictions que Jésus a déversées sur moi. Mais aussi sur mon prochain, à la croix. Osons même, et cela n'est pas toujours facile, en tout cas dans mon groupe de maison, on a partagé aussi un bon petit moment là-dessus, osons abandonner nos vieux réflexes. Ces regards qui parfois, que je continue d'avoir, et qui m'amènent à rejeter ou simplement à esquiver des uns des autres, et pas seulement l'Église, prenons-le autour de nous, et notamment à notre boulot. C'est encore plus facile, parce que dans le milieu du travail, mépriser l'autre est parfois un sport national. Ça dépend un peu de la culture d'entreprise et de l'état d'esprit qui peut y régner. Malheureusement, parfois, ça va bien. Heureusement, parfois, ça va bien. Malheureusement, parfois, c'est presque un concours. Dans le privé comme dans le public. Je n'ai pas tout expérimenté, mais je crois que vous l'avez expérimenté aussi. Et notre témoignage peut être retentissant si nous avons fait la différence. Et c'est très difficile, car il est facile de se laisser embarquer par le flot de cette manière d'être et de faire. Aussi, Recherchons l'amour vrai, celui que Jésus a manifesté pour nous, afin nous de ne pas faire obstacle au cheminement de celui que Dieu m'a offert par grâce comme un frère ou comme une sœur, et qui pourtant diffère de moi. Il n'est pas comme moi. Il n'est peut-être pas, attention, là je plaisante, hein, aussi brillant, aussi riche que moi, ou même des choses beaucoup plus subtiles dont nous n'avons pas toujours conscience. Et surtout, s'il vous semble difficile d'arriver à vous détacher de ce genre de réflexe et de regard sur l'autre, croyez-moi, soyez-en sûrs même, Dieu s'apprête à nous aider chacun par la puissance de son esprit, dont la volonté même est de nous rendre plus semblables à son Fils. Et si vous avez foi en Dieu, foi en ce qu'il désire faire en nous, alors croyez-moi, même si cela vous semble impossible, même si cela fait tellement partie de vos réflexes, Dieu peut changer cela. Car à Dieu, rien n'est impossible. Il est facile de le dire, mais pour ce genre de choses, bien évidemment aussi. Il n'y a pas le droit de désespérer de nos mauvais réflexes, de nos mauvaises habitudes, ou même de nos mauvaises attitudes sur ce sujet. Car par la foi en Christ, l'impossible en nous devient alors réalité en raison du miracle de la présence gracieuse de Dieu par l'Esprit qui nous a été donné. C'est bien pour ça que Dieu nous a fait don de cela. Ce n'est pas pour que nous restions seuls dans notre foi et que nous nous dépatouillons avec. Nous ne ferions que catastrophe sur catastrophe au jour le jour. Des petites, hein. Nous avons reçu un précieux cadeau, l'Esprit de Dieu. Aussi, croyez-moi, si nous avons peut-être encore des mauvais petits réflexes à ce sujet-là, Dieu peut nous aider à nous en défaire pleinement. Amen. Amen. Alors inclinons-nous un instant. Et pendant que peut-être nous méditions encore un instant, si quelques-uns parmi nous veulent justement glorifier Dieu, priez Dieu tout simplement, n'hésitez pas à le faire maintenant.